RCF.
Qu'est-ce que c'est que ça?
Des œufs mimosa, monsieur Septime.
Vous appelez ça des œufs mimosa, vous?
Oui, monsieur Septime.
J'ai déjà dit que pour simuler le feuillage des œufs mimosa, je voulais de l'estragon et non pas du persil.
S'il est un pays où la gastronomie et la cuisine sont une véritable passion, c'est bien la France. C'est un art qui s'est élaboré au fil des siècles, qui a connu des tournants, des étapes, des querelles même, et qui a forgé une identité nationale qui fait de la France aujourd'hui le pays de la gastronomie. Bonjour Patrick Rambourg.
Bonjour.
Vous êtes historien des pratiques culinaires et alimentaires. Vous enseignez à l'université Paris 7. Est-ce qu'on connaît, Patrick Rambourg, des éléments très intéressants sur la cuisine au Moyen-Âge grâce aux écrits et aux traités culinaires qu'on a retrouvés donc?
Oui, on a de la chance d'avoir comme source les livres de cuisine, donc les traités culinaires ou les recueils de recettes, comme on peut les appeler, de la fin du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Donc ça nous permet de faire de belles études sur l'évolution du goût, sur l'évolution des pratiques culinaires et alimentaires. Au tournant du XIIIe et XIVe siècle apparaissent des livres de cuisine. Ce sont des manuscrits encore à l'époque, donc pas vraiment des livres de cuisine. Ce ne sont pas les premiers. On a des traités culinaires à l'époque romaine, bien sûr, et même on pourrait aller plus loin puisqu'on a retrouvé des recettes à l'époque mésopotamienne, donc 2500-2700 ans avant Jésus-Christ.
Alors, quelle est la particularité de ces manuscrits du Moyen-Âge?
Les manuscrits du Moyen-Âge. Alors, déjà, le simple fait qu'ils apparaissent en français, alors ce n'est pas une spécificité de ce pays. Hein. On a des traités qui apparaissent en langue anglaise, des traités qui apparaissent en langue germanique, en langue espagnole, etc. Quand ils apparaissent dans une langue vernaculaire, ça signifie déjà un élément identitaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces traités, on nous dit qu'ils sont écrits par des professionnels de la cuisine, donc par des chefs. Alors, l'un des plus connus est Taillevent, Guillaume Tirel, c'est-à-dire chef de Charles V et de Charles VI, au XIVe siècle, XVe siècle.
Le viandier, oui. Qui est, dites-vous dans votre livre, un véritable best-seller.
Oui, tout à fait. Le viandier, donc qu'on attribue à Guillaume Tirel, à Taillevent, est un véritable best-seller. Alors déjà, on a plusieurs manuscrits, et le fait d'avoir plusieurs manuscrits de ce viandier nous montre une évolution de la pratique culinaire, une évolution de l'écriture de la cuisine. Donc c'est le premier livre de cuisine qui sera imprimé vers les années 1480, et ensuite qui sera constamment réédité jusqu'au milieu du XVIIe siècle.
Donc on y trouve des recettes de cuisine?
On y trouve des recettes de cuisine. Alors d'emblée en jour gras et en jour maigre, et ça c'est quelque chose qui va durer pendant plusieurs siècles.
Calqué sur la pratique religieuse évidemment.
Calqué sur la pratique religieuse, on propose des recettes que l'on peut faire les jours à poisson et des recettes que l'on peut faire les jours à viande. Ensuite, on a des recettes ordonnées aussi selon le menu de l'époque, donc potage, entrée, entremets, rôt, etc. La particularité de ces recettes, c'est qu'elles n'ont généralement pas de temps de cuisson, pas de proportion. Pour une raison toute simple, c'est que à l'époque, on n'avait pas les gazinières sophistiquées que l'on a aujourd'hui et on cuisinait dans l'âtre de la cheminée. C'est une cuisine des élites. Ce n'est pas une cuisine du commun.
C'est-à-dire des seigneurs, des princes?
Des seigneurs, des princes, des rois, voire de la haute bourgeoisie, puisqu'on a un traité très connu et très célèbre qui s'appelle le Ménager de Paris, le Mesnager de Paris en vieux français, écrit par un haut bourgeois parisien. Et ce n'est pas seulement un traité de cuisine, c'est aussi un traité de domesticité. C'est un monsieur d'un certain âge qui s'est marié avec une jeune femme qui devait apprendre à tenir une maison. Et on a dans ce traité 400 recettes. Et alors, dans le Ménager de Paris, on a beaucoup d'informations et beaucoup de détails parce qu'il s'adresse à sa jeune femme qui ne sait pas cuisiner. Et donc, il lui donne beaucoup d'informations.
Des trucs et des astuces.
Des trucs et des astuces qu'on ne trouve pas forcément dans les traités aristocratiques qui s'adressent à des professionnels.
La suite de l'histoire.
Patrick Rambourg, vous disiez, on cuisine dans l'âtre, dans les grandes maisons hein, qui disposent d'une cheminée, d'un âtre. C'est là qu'on cuit tout.
C'est là qu'on cuit tout à cette époque. Il faut avoir une cuisine. Or, chez le commun des mortels, la cuisine, il n'y en a pas. Hein, c'est une pièce commune, on a parfois un petit brasero au sol pour réchauffer, et c'est pour ça que dans les grandes villes, notamment à Paris, il y avait des spécialistes du prêt-à-manger, c'est-à-dire des professionnels de bouche qui proposaient une nourriture prête à être consommée.
Vous dites que ce sont les fast-foods du Moyen-Âge,
en quelque sorte. Du Moyen-Âge, tout à fait. C'est-à-dire, on a déjà ce qu'on appelle les cuisiniers ouaillés, les pâtissiers, les rôtisseurs et les charcutiers et bien d'autres professionnels de bouche qui proposent une nourriture à un prix modeste à la majorité de la population.
Et on la consomme dans la rue,
on peut la consommer dans la rue, on peut la consommer à la maison, chez soi. L'auteur du Ménage de Paris nous dit très clairement, quand on n'a pas le temps de faire la cuisine le soir, on peut aller acheter un bouillon chez le tavernier, acheter des œufs, rentrer chez soi, chauffer le bouillon et mettre son œuf dedans et cuire son œuf. À côté, on a bien sûr ceux qui ont les moyens d'avoir une cuisine. Donc avoir une cuisine, c'est un espace spécifique. C'est aussi souvent avoir un cuisinier. Et cuire dans l'âtre de la cheminée, c'est cuire dans le pot. Pot en terre, bien sûr, et avec des petits pieds qu'on appelle tripodes et que l'on met devant le foyer et que l'on tourne régulièrement pour cuire ce qu'on appelle le potage. Alors le potage à l'époque, c'est comme un ragoût, c'est-à-dire c'est souvent de la viande qui cuit dans une sauce ou dans un bouillon devant le foyer.
Et qui est cuit dans un pot. D'où le nom.
Pot, potage, tout à fait. Et alors, lors des grands repas, des grands banquets, on a bien sûr la pièce maîtresse du repas qui est le rôti. Et là, bien sûr, quand les archéologues retrouvent des broches ou des grilles, c'est un indice social. Ça veut dire qu'on est dans le contexte d'une grande maison. Cuire un rôt, là, ça demande de l'attention. Et on a l'iconographie de l'époque qui nous montre bien. Bien souvent, on voit une personne qui est en train de tourner une grande broche avec des volailles. Cuire un rôt, c'est plus complexe qu'on ne le pense parce que le foyer est fort et on doit arriver à contrôler la chaleur pour que la pièce de viande puisse cuire régulièrement sans être brûlée.
Quel genre de pièce de viande ? Du bœuf essentiellement ?
Non, le bœuf n'apparaît pas vraiment dans les grandes maisons. Le bœuf, à cette époque, n'est pas considéré comme une viande des grandes tables. C'est essentiellement des volailles, des volatiles. Alors là, on a une symbolique très très forte. C'est-à-dire que, d'une façon générale, tous les aliments qui sont le plus éloignés possible de la terre, le plus près possible du ciel, sont une nourriture...
Plus noble.
Plus noble, oui. Tout simplement parce qu'on considérait que c'était déjà une nourriture plus légère. Mais surtout, c'est plus près du paradis, du monde de Dieu.
Pourtant, on mangeait beaucoup de porc, non, à cette époque-là ? Ou alors c'est une idée toute
non,
faite ?
Non, alors, on en consomme, c'est vrai, mais dans une autre catégorie sociale. Quand on parle de cuisine et d'alimentation à cette époque, et ça va durer très longtemps, on aborde obligatoirement la distinction sociale. Et la nourriture n'est pas la même sur la table aristocratique que sur la table bourgeoise, que sur la table du paysan.
Il en est de même pour les épices, qui sont une caractéristique de la cuisine du Moyen-Âge.
Exactement. Longtemps, on a eu une idée reçue sur les épices qui venait des historiens du XIXe siècle. Les historiens du XIXe siècle ont regardé ces traités culinaires de l'époque, en ont édité pas mal d'ailleurs, notamment Le Viandier a été édité au XIXe siècle, et ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup d'épices. Et ils se sont dit que c'est pour cacher le goût des viandes avariées. Or, ça ne fonctionne pas historiquement, parce que les épices sont très chères. Donc les seuls qui pouvaient s'acheter des épices à cette époque, ce sont les plus riches. Or, les aristocrates ne mangent pas de la viande avariée.
Vous dites qu'elle est consommée tout de suite après que l'animal a été tué.
Exactement. Elle est consommée très fraîche. Alors que nous, aujourd'hui, par exemple, on consomme un animal dont la viande a reposé une dizaine de jours, voire 15 jours. On appelle ça mortifié. Alors donc, ils consomment une viande très très fraîche. Et donc, elle n'est pas si tendre qu'on ne pourrait le penser. Donc souvent, on la salera aussi avant de la consommer.
Mais en tout cas, les épices ne sont pas là pour masquer le goût de la viande avariée.
Non, les épices sont une distinction sociale, dans un premier temps. Deuxièmement, les épices avaient aussi une connotation diététique qui rentrait dans le cadre de la théorie des humeurs qui venait du monde antique. On pensait que la cuisine était une médecine. Et donc, les épices considérées comme chaude et sèche dans la théorie humorale, la viande et le poisson considérés comme froids et humides, on pensait que si on faisait une cuisine avec des épices chaudes et sèches et une denrée humide et froide, on trouvait un équilibre. Mais tout ça s'intègre parfaitement dans la manière de penser du monde médiéval, en fait. Et on voit bien que la cuisine, c'est plus qu'une façon de se nourrir. La cuisine nous donne des indications sociales, nous donne des indications symboliques, nous donne des indications religieuses aussi.
Est-ce qu'on se met à table et est-ce que la table ressemble à celle qu'on connaît aujourd'hui ?
La table médiévale est totalement différente de la nôtre. Alors déjà, la notion de table, quand on dit mettre la table à cette époque, notamment dans les grandes maisons, c'est prendre des tréteaux, c'est prendre une planche et former la table.
Dresser la table.
Dresser la table, c'est exactement cela. Faire la table, dans un premier temps. Ensuite,
il n'y a pas un endroit destiné à ça où une table est tout le temps prête pour qu'on puisse manger.
Non, la notion de salle à manger n'existe pas vraiment à l'époque. Dans les grandes demeures, dans les châteaux, etc., on mangeait où on le souhaitait. Et par exemple, à la cour, il y avait le repas privé qui se prenait dans ce qu'on appelait la chambre du roi ou de la reine, et puis il y avait les repas publics. Alors, paradoxalement, sur la table, il n'y a pas beaucoup de vaisselle, il n'y a pas de verre, il n'y a pas d'assiette. À l'époque, l'assiette n'est pas là. Il y a ce qu'on appelle des tranchoirs ou des tailloirs. Les tranchoirs ou tailloirs, selon le contexte élitiste, ça peut être une petite planchette de bois, ça peut être une petite plaque ronde ou rectangulaire en argent ou en or, ou ça peut être une tranche de pain.
Qu'est-ce qu'on faisait sur ce pain ou sur ces plaques, planches ?
Ce pain ou ces petites plaques recevaient la nourriture. Ça faisait office d'assiette. La nourriture préparée arrivait soit dans des écuelles, soit dans des plats, et on prenait cette nourriture généralement avec les mains, ou avec la pointe du couteau, et on mettait ça dans son écuelle et on mangeait avec ses doigts.
Pas de fourchette pour le moment.
Pas de fourchette pour le moment, même si elle existe déjà.
Patrick Rambourg, on l'a vu, la période médiévale est une période très importante, très intéressante, quand on évoque l'histoire de la cuisine et de la gastronomie en France. Est-ce qu'on peut dire que les pratiques et les mentalités évoluent très vite ? Ou bien ça se fait avec lenteur et vraiment par étapes ?
Alors, les pratiques alimentaires, les pratiques culinaires, à cette époque, évoluent très lentement. Quand on parle de cuisine médiévale, on parle de la cuisine de la fin du Moyen-Âge, hein, 13e, 14e, 15e siècle essentiellement. Hein. Et on voit une continuité sur ces deux derniers siècles du Moyen-Âge. C'est toujours une cuisine épicée, acidulée, dans laquelle on intègre du verjus, du vinaigre, voire du vin blanc acidulé. Selon les pays d'Europe aussi, on voit des distinctions de goût. Par exemple, on sait qu'en Italie, la cuisine était beaucoup plus sucrée. En Allemagne, elle était aigre-douce. Et en Angleterre, elle était sucrée. Et dans la région parisienne, elle était acidulée. C'est important parce qu'on commence à avoir une évolution du goût dès la seconde partie du 15e siècle qui va se poursuivre durant la Renaissance. Quand on parle de la Renaissance en France, c'est le 16e siècle. C'est bien différent de la Renaissance italienne.
Vous dites qu'il y a des particularités selon les pays, selon même les régions. Est-ce que c'est dû aux produits qu'on trouve à ces endroits-là, à ce moment-là ?
Non, pas du tout. C'est une distinction gustative, une distinction du goût. Il y a une internationale des épices à l'époque médiévale, à la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire que toute la cuisine aristocratique européenne est une cuisine épicée. Épicée dans le sens où on utilise une grande variété d'épices dans un plat. Gingembre, cannelle, noix de muscade, graines de paradis, c'est la maniguette par exemple.
Poivre ?
Poivre, bien sûr, et bien d'autres épices qui ont disparu aujourd'hui, qu'on n'utilise plus. Donc, déjà, on voit des identités qui se mettent en place au travers du goût et dans la manière de cuisiner. Ça indique des distinctions bien spécifiques. Le goût de la cuisine épicée, à cette époque, est le goût de l'élite. Le goût de la cuisine urbaine pour la classe sociale moyenne, par exemple, est beaucoup moins épicé que celle de l'aristocratie. Et le goût de la cuisine paysanne n'est pratiquement pas épicé du tout. Mais en même temps, c'est extrêmement difficile de définir ce qui fait le goût et pourquoi à un moment donné le goût change. On peut constater les évolutions. Quant à dire pourquoi à un moment donné on apprécie telle denrée qu'on n'appréciera plus à une autre époque, c'est pas si simple que ça parce qu'il y a avec la cuisine des phénomènes de mode aussi. Et on le voit très très bien avec la Renaissance.
RCF, la suite de l'histoire.
Alors vous commencez le chapitre sur la Renaissance, Patrick Rambourg, en soulignant une idée préconçue, justement. On a longtemps cru qu'en arrivant en France, Catherine de Médicis avait fait venir avec elle ses cuisiniers, et donc les habitudes alimentaires italiennes, et que donc ça aurait très très largement influencé la cuisine française. Vous dites que c'est faux.
Mais on n'a pas de preuves. On ne peut pas dire si Catherine de Médicis est arrivée avec des cuisiniers, elle est sûrement arrivée avec du personnel, mais c'est extrêmement difficile. Il faut savoir déjà qu'elle est arrivée adolescente à la cour de François Ier et qu'il est extrêmement difficile de penser qu'une adolescente puisse du jour au lendemain changer le goût de François Ier. De toute façon, même s'il y avait une évolution du goût à la cour, ça ne veut pas dire pour autant que toute la France se serait mise à manger à l'italienne. Il faut savoir qu'en fait, les échanges entre les deux pays existent depuis longtemps et qu'on n'a pas attendu Catherine de Médicis pour voir des influences de part et d'autre.
Mais elle aurait peut-être pu imposer, étant reine, des manières de faire ou des goûts, justement, non. Un peu inconnus en France jusque-là ?
Non, pas du tout. On voit bien que l'évolution du goût vers le sucre, par exemple, on n'a pas attendu Catherine de Médicis pour voir cela. Hein. Donc, c'est très clair. En fait, là, on est dans le cadre vraiment d'une idée reçue qui est là depuis très longtemps, comme si on voulait absolument qu'un événement culinaire soit porté sur les épaules d'un grand personnage. L'histoire de la cuisine, l'histoire de la gastronomie, c'est comme toute autre histoire. Ça évolue par étapes sur la longue durée et donc...
Ça n'est pas forcément à raccrocher à un grand événement
pas nécessairement,
historique.
Surtout l'alimentation. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas eu d'influence italienne. Certes, l'Italie au XVIe siècle était quand même un modèle dans l'art, était un modèle dans le travail du sucre, était un modèle dans beaucoup de choses. Et les connexions entre les deux pays, la France et l'Italie, notamment les connexions politiques, sont très importantes. À une autre période, on a quand même des Italiens qui vont être au pouvoir de la France, à la tête du pays. Donc on voit bien que les connexions sont là. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça contribue à différentes évolutions. Par exemple, pour la fourchette. Là aussi, on a souvent dit que c'est Catherine de Médicis qui a imposé la fourchette à la table française.
Faux.
Ben oui, ça ne tient pas la route, puisque la fourchette, elle existe déjà à l'époque romaine, à l'époque antique, on a retrouvé des fourchettes que, même si les Italiens ont été très précoces dans l'utilisation de la fourchette, probablement parce qu'ils mangeaient des pâtes, en France, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On voit, par exemple, que Henri III, beaucoup plus tard, va essayer d'imposer la fourchette à table à la cour. On va se moquer de lui, parce que manger avec une fourchette et un couteau, ce n'est pas naturel, c'est culturel. Henri IV, lui, va se débarrasser de la fourchette, il va continuer à manger avec les doigts, par exemple.
Et on pique avec la pointe du couteau.
Voilà, c'est ça. Quand on regarde une iconographie représentant Louis XIII et Louis XIV à table, on voit bien que la fourchette, certes, elle est sur la table, mais Louis XIV continue à manger avec les doigts alors que la reine mange avec une fourchette. En fait, la fourchette, elle est arrivée en deux temps. D'abord, elle arrive sur la table. On va l'utiliser pour prendre dans le plat commun. Alors qu'avant, on prenait souvent avec les doigts. On met sa denrée dans son assiette. Là, l'assiette est présente. Elle va remplacer le tranchoir, quoique ça ne se fait pas systématiquement.
Et pas partout.
Et pas partout. Et puis, on va utiliser ses mains et ses doigts pour manger sa nourriture à partir de son assiette. Donc, il y a une évolution.
Donc
même.
Là, on est en quelle période ?
Là, on est au XVIe siècle.
Et alors, la fourchette comme vraiment élément que l'on utilise pour manger ?
Il va falloir du temps. Il va falloir du temps. Certains vont l'accepter très facilement. On a l'impression que ce sont plus les dames qui vont d'abord utiliser la fourchette pour manger sa nourriture à partir de son assiette, alors que les hommes vont longtemps continuer à manger avec les doigts à partir de leur assiette. La sociabilité à table veut que celui qui se tient bien à table, c'est celui qui représente l'élite sociale. Et ce n'est pas anodin si le traité d'Erasme apparaît au XVIe siècle. On voit bien que la bonne tenue à table...
Ça commence à ce moment-là. Hein,
oui, sauf qu'on a déjà des textes de courtoisie au Moyen-Âge qui nous expliquent les bonnes manières de se tenir à table. Donc, on voit bien que la fourchette, il faudra plusieurs siècles pour être acceptée, notamment en France.
Pourquoi dites-vous, Patrick Rambourg, que la Renaissance est une période charnière dans l'histoire de la gastronomie ?
C'est une période de mutation, ce n'est pas une période de rupture. En fait, le XVIe siècle fait la charnière entre le monde médiéval et le grand siècle, le XVIIe siècle, le monde moderne. Et on voit très bien ça dans la cuisine. C'est-à-dire que la cuisine et les manières de manger à la Renaissance sont encore très médiévales, et en même temps, on voit déjà les indices de la cuisine et de la table moderne.
C'est-à-dire une sorte de raffinement ?
On voit des mutations se mettre en place. La cuisine de la Renaissance est beaucoup moins épicée que la cuisine médiévale et on voit apparaître une denrée qui a longtemps été une denrée de luxe et qui a longtemps été une denrée médicinale, c'est le sucre. Là, les Italiens ont joué un rôle important parce que notamment Venise qui va inonder le marché européen de sucre et le sucre devient un véritable phénomène de mode dans la première partie du XVIe siècle et devient une denrée accaparée par les élites et l'aristocratie pour se distinguer des autres tables.
Il a une utilité ou bien c'est simplement qu'on apprécie son goût ?
Dans un premier temps, c'est son goût. le statut du sucre change au tournant, disons, du 15e et du 16e siècle. Quand on relit des traités culinaires du Moyen-Âge et qu'on a quelques recettes avec du sucre, elles sont rares, on nous indique systématiquement que c'est une recette pour un malade. Mais avec le 16e siècle, le sucre va devenir une denrée de la douceur, du plaisir. Et on utilise le sucre pour atténuer l'acidité des recettes et puis surtout aussi pour adoucir la cuisine par rapport aux épices. On diminue les épices, mais on ne les supprime pas. Et donc, on a une vraie passion. C'est un véritable phénomène de mode. Et ça, c'est quelque chose que l'on va voir assez régulièrement dans l'histoire de la cuisine et de la table. D'un seul coup, il y a certains ingrédients comme ça qui deviennent un phénomène de mode. C'est le cas du sucre, mais on va tout sucrer. On va sucrer le poisson, on va sucrer la viande et on va provoquer une cuisine tellement sucrée que dans la seconde partie du 16e siècle, on va commencer à avoir un discours où on dit qu'on sucre trop les denrées et qu'on n'a plus le goût principal de l'aliment.
Le beurre apparaît aussi à ce moment-là.
Oui, alors le beurre, il a une longue histoire, bien sûr, mais le beurre montre aussi une évolution de la cuisine à la Renaissance. Longtemps, je me suis posé la question de ces sauces au beurre qui accompagnaient le poisson, parce que tout simplement, longtemps, le beurre a été une denrée qui n'était pas consommable les jours maigres ou pendant le carême, parce que c'était une matière grasse animale. Or, je me suis rendu compte que dès le 15e siècle, il va y avoir des autorisations de l'Église, en fait, pour la consommation du beurre les jours maigres, notamment dans l'ouest de la France, puisque dans ces régions, quand on n'avait pas d'huile ou très peu d'huile, on n'a pratiquement pas de matière grasse les jours à poisson. Le sein doux, c'était pareil, puisque le sein doux est une graisse du porc. Et donc, avec ces autorisations papales, on va se rendre compte que très très vite, le beurre sera utilisé comme une matière grasse du lundi au dimanche, pratiquement. C'est à ce moment-là que l'on voit dans les traités culinaires de la Renaissance, donc du XVIe siècle, le beurre qui apparaît régulièrement dans les recettes du XVIe siècle.
Je rappelle que nous évoquons avec vous dans ces entretiens l'histoire de la cuisine et de la gastronomie française. Qu'est-ce qu'on entend par service à la française ?
Le service à la française a une très très longue histoire. En fait, c'est un service dont on voit les prémices au Moyen-Âge. Il consiste à porter un certain nombre de plats en même temps et à les déposer sur la table. Alors qu'aujourd'hui, on sert plat après plat. On a déjà un ordonnancement du repas dès la fin du Moyen-Âge avec potage, roux, entremets, service du fruit, issue, etc., etc. Et dans le cadre de chaque service, on apporte un grand nombre de plats en même temps que l'on dépose sur la table. On ne parle pas vraiment de service à la française au 14e et 15e siècle, mais les bases sont là. On parlera vraiment du grand service à la française à partir du 17e siècle, 18e siècle, et ça va devenir un modèle européen. Selon l'importance du repas, on pouvait avoir un banquet à 3 services, un banquet à 4, à 5, à 6, à 7 services, voire à 10 services.
En fonction des plats chauds, des plats froids par exemple aussi ?
Oui, tout à fait. Il ne faut pas s'imaginer non plus qu'il y avait un ordre qui ressemblait au nôtre, c'est-à-dire forcément le premier service aurait été froid et les services suivants auraient été chauds. Ça peut être plus compliqué que ça. Ce qui est important, c'est qu'autour de la table, il y a une hiérarchie sociale et que le convive ne consomme que les plats qui sont posés devant lui. Ce qui veut dire que si vous avez une table de 100 couverts, on a des plans au XVIIe et au XVIIIe siècle, on a une table rectangulaire, on a l'emplacement des convives autour, donc 100 couverts c'est énorme, et on a une table couverte de plats. C'est l'art culinaire à la française, c'est-à-dire qu'à cette époque, on pensait que l'art de la table, l'œuvre, c'était la table, et non pas seulement le plat et la cuisine. C'est cette notion qui est différente de la nôtre aujourd'hui. Quand on parle d'une œuvre d'art dans le monde de la cuisine, on pense à ce qu'il y a dans notre assiette. À l'époque, c'est toute la table.
C'est un ensemble.
C'est un ensemble. Mmh. Et donc, ce qui veut dire qu'on tenait compte de la forme du plat, de la couleur du plat, de la préparation même. Si on avait un plat d'une couleur rouge ou verte à côté, il fallait mettre un plat d'une autre couleur. Si on avait un plat rectangulaire, on faisait en sorte de mettre un plat rond, etc., etc. Va se mettre en place aussi assez rapidement ce qu'on va appeler le surtout, le dormant. C'est quelque chose qui sera placé au milieu de la table. Dormant, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui ne bouge pas, quel que soit le nombre de services. Alors ça doit devenir une pièce d'orfèvrerie extrêmement importante, décorative, qui sera placée au milieu de la table, et le surtout ou le dormant, on en trouvera trace jusqu'au 19e siècle.
Mais quelle utilité a-t-il ?
Ah, une utilité décorative, ça peut être, on peut y mettre des fruits, on peut y mettre des bougies, on peut y mettre des couverts aussi.
La suite de l'histoire.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tant que le service à la française existera, il n'y aura pas de verre sur la table. Pour une raison toute simple, il n'y a pas de place.
À quel moment apparaissent les verres ?
Les verres, ils apparaissent au 19e siècle.
19e ?
Oui, quand on changera de service. Très tardif. Alors, les verres sont là, bien sûr, mais ils sont à l'arrière sur des dessertes. Ce qui veut dire que quand le convive voulait boire quelque chose, il devait demander à un serviteur qui était derrière. Donc, le convive, pas si libre que ça à cette époque, très dépendant
du service
et aussi très dépendant de ce qui était placé devant lui. Donc, on voit la complexité du système à l'époque, un service à la française très compliqué, très lourd, très difficile à mettre en place, mais un service paradoxalement assez rapide. Les plats ne devaient pas rester plus d'un quart d'heure, 20 minutes sur la table. Et alors, on devait savoir le goût et le dégoût des personnes. C'est-à-dire que si on savait que telle personne n'aimait pas tel plat, il fallait faire en sorte qu'on place devant elle des plats qu'elle aimait. Pour les banquets médiévaux, on a des textes qui nous expliquent, par exemple, qu'entre le haut de la table et le bas de la table, la nourriture n'était pas la même, puisque en bas de la table, les personnes étaient des conditions sociales inférieures à celles qui étaient placées en haut de la table. Et donc, autour du même table, on pouvait avoir des poulets, des chapons rôtis, qui indiquaient une élite quand même assez élevée, et au bout de la table, on pouvait avoir une nourriture considérée comme beaucoup plus vulgaire, comme du cochon, peut-être un peu de bœuf. On considérait que c'était des convives qui n'avaient pas la même condition sociale que les autres.
Et ça ne tournait pas, donc les plats ne tournaient pas.
Non, à cette époque, ça ne tournait pas. Tout cela montre aussi que la vaisselle a évolué par rapport au Moyen-Âge. Le tranchoir du Moyen-Âge disparaît progressivement.
Mais pour laisser place à quoi ?
À l'assiette.
Aux assiettes.
Aux assiettes, en porcelaine, en faïence, mais qui seront très fragiles dans un premier temps. C'est pourquoi, pendant très très longtemps, on va préférer la vaisselle d'orfèvrerie, en argent ou en or.
L'étain aussi,
bien sûr, oui. Très très important, l'étain. Donc on a une évolution qui est progressive. Là aussi, c'est faux de dire que tout s'est fait d'un seul coup. Quand je trouve des textes où on nous explique, en 1530, le tailloir disparaît, le tranchoir disparaît, l'assiette apparaît. Non, c'est faux. Il suffit de regarder l'iconographie et vous pouvez avoir des tableaux qui représentent la scène au XVIe siècle, où d'un côté on voit une scène avec des tranchoirs et une autre scène avec des assiettes. Pareil pour la fourchette. C'est une évolution qui se fait sur la longue durée.
Alors, il n'y a pas de révolution à proprement parler en quelques années ou quelques jours, mais il y a des dates clés quand même, et notamment 1651, avec la publication, encore une fois là, d'un ouvrage culinaire qui fait date.
C'est le cuisinier François de la Varenne, 1651, un ouvrage qui fait vraiment date. On a dans l'histoire de la cuisine, de la gastronomie française, des continuités et en même temps des sortes de ruptures, d'évolutions. En fait, le cuisinier François 1651 marque vraiment là une rupture avec ce qui se passait à la Renaissance et au Moyen-Âge.
Pourquoi ?
Il annonce une nouvelle ère culinaire, une nouvelle approche de la cuisine. Il présente une cuisine moderne, beaucoup moins épicée, très peu sucrée. Il nous montre qu'il y a eu une évolution entre le milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIe siècle. Alors, il est nouveau dans le sens où il présente la cuisine de façon beaucoup plus codifiée que précédemment.
Très méthodique.
Très méthodique. Il s'adresse à un public beaucoup plus large, à la bourgeoisie, à tout le monde. Il, entre guillemets, démocratise la grande cuisine française à ce moment-là. C'est un véritable succès, un tel succès que le livre sera traduit en anglais, plus tard en allemand, et qu'on va en retrouver trace dans d'autres pays européens. Un véritable succès aussi parce qu'il va être diffusé par la collection de la Bibliothèque Bleue, ces livres de colportage. Les colporteurs qui allaient dans toutes les petites villes de France et de Navarre et qui proposaient, entre autres, des livres, et notamment le cuisinier François.
Est-ce que c'est dans cet ouvrage qu'on trouve déjà le souci de retrouver le goût naturel des aliments ?
Oui, on a ce fameux discours du goût vrai des aliments. Pourquoi ce discours apparaît au XVIIe siècle ? Tout simplement parce qu'à un moment donné, on a trop sucré la cuisine et les pratiques culinaires. Ça, c'était la pratique de la Renaissance. Et on s'est rendu compte que trop sucrer les aliments, c'était empêcher le vrai goût des aliments. Donc, on a un discours du vrai goût des aliments qui apparaît à cette époque. Quand on dit vrai goût des aliments à l'époque, ça se positionne par rapport au goût sucré de la Renaissance et au goût épicé du Moyen-Âge. Si on parle de vrai goût des aliments aujourd'hui, on se positionne par rapport à l'industrie agroalimentaire. Ce n'est pas la même chose. Alors, on a quand même un paradoxe au XVIIe siècle, c'est qu'on a ce discours du vrai goût des aliments. Un personnage qui s'appelle Nicolas de Bonnefonds, qui était valet de chambre de Louis XIV, nous a écrit un ouvrage, Les délices de la campagne, où il tient un discours assez incroyable, où il nous dit que le potage doit avoir le vrai goût de ce qu'il est. C'est-à-dire que si on fait un potage de chou, il doit avoir le goût de chou, etc. etc. Et il critique les cuisiniers de son époque, qu'il mélange trop les ingrédients, qui utilise une spatule pour mélanger un plat de poisson et qui réutilise cette même spatule pour mélanger un plat de viande, par exemple. Et alors, on a ce discours des cuisiniers où on les explique que, par exemple, pour cuire les asperges, il faut les cuire quelques bouillons pour qu'elles restent croquantes. La pièce de viande rôtie doit rester saignante, donc pour sentir le goût. On nous explique que moins cuire les aliments, c'est garder la saveur des aliments. C'est un discours que l'on va retrouver au XXe siècle
très moderne,
avec la nouvelle cuisine des années 1970-1980.
Patrick Rambourg, il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que quelques siècles auparavant, on a découvert de nouveaux continents, on a découvert l'Amérique, et avec l'Amérique et ses nouveaux continents, de nouveaux produits.
Exactement.
Est-ce que ça a modifié aussi considérablement les goûts et les habitudes européennes ?
Selon les denrées, selon les ingrédients, on va avoir une diffusion plus ou moins rapide. La dinde, par exemple, qui vient du Nouveau Monde, va être acceptée extrêmement rapidement. On va la trouver sur la table d'un banquet offert par la mairie de Paris à Catherine de Médicis dans les années 1500, à la fin des années 1540. Donc très rapide, alors qu'elle est arrivée quelques décennies auparavant. Pourquoi la dinde est acceptée rapidement ? Parce qu'elle ressemble aux oiseaux européens, aux gros oiseaux. Donc ça, c'est facile. La tomate, qui arrive aussi du Nouveau Monde, mettra beaucoup plus de temps. Utilisée assez rapidement en Espagne, en Italie, en Provence, ça sera beaucoup plus tardif, XVIIe siècle, et pour la région parisienne, il faut par exemple attendre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle.
Parce que le goût est trop particulier,
non,
trop nouveau ?
Non, parce que dans un premier temps, on va voir la plante comme une plante d'apparat. Le fruit s'appellera la pomme d'amour, et donc il faudra plus de temps. La pomme de terre aussi, on va avoir beaucoup de mal à l'accepter en France, tout simplement parce qu'elle avait une image extrêmement négative. Pomme de terre utilisée en période de famine, comme nourriture pour les cochons. Et les paysans acceptaient de cultiver cette pomme de terre, pas pour leur propre nourriture, mais pour une nourriture animale. Et on voit bien là l'importance de la symbolique de l'aliment aussi, l'importance du dégoût ou du goût, l'importance du regard que l'on a sur une denrée. Et la pomme de terre, il faudra attendre seulement la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle pour qu'elle soit totalement acceptée par tout le monde. D'abord les plus modestes et ensuite sur la table des restaurants et des plus riches.
Crambourg, le siècle des Lumières est une période de nouveauté et de créativité dans l'histoire de la gastronomie française.
Oui, le siècle des Lumières est une période extrêmement importante dans l'évolution de la cuisine en France et de la gastronomie. Le discours devient de plus en plus important. Dans les années 1730-1740, on a tout un débat qui se met en place, notamment à Paris, sur la notion de nouvelle cuisine. Les termes nouvelle
cuisine.
Oui, les termes nouvelle cuisine sont utilisés à l'époque. Le renouvellement culinaire est de plus en plus rapide. Si dans les périodes anciennes, fin Moyen-Âge, Renaissance, il fallait quand même parfois un siècle, deux siècles pour voir des mutations culinaires. Avec le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle, le renouvellement est de plus en plus rapide. C'est toute la substance même de la cuisine qui se met en place. L'image même de la cuisine est en train de changer. Ce qui est nouveau, c'est à la fois ce qu'on mange et le discours que l'on tient sur la cuisine. Je dois préciser une chose, je parle régulièrement de cuisine et de gastronomie, mais le terme gastronomie ne s'imposera qu'un peu plus tard, au début du XIXe siècle. Et il faut dire d'emblée que la gastronomie, c'est le discours sur le boire et le manger. Ce n'est pas forcément la pratique culinaire comme on le comprend aujourd'hui. Donc à l'époque, on a déjà tout un discours. Et alors, il y a un véritable débat, une passion incroyable sur la cuisine à cette époque, au début du XVIIIe siècle. La cuisine est un phénomène de mode à ce moment-là. Tout le monde en parle. On a plein de livres de cuisine qui sont publiés sur cette thématique.
17e, 18e.
Principalement 18e siècle. Parce que la cuisine est désormais considérée comme un art. Autre phénomène aussi, on a des textes qui nous explique que la cuisine, c'est comme la peinture et la musique. Par exemple, la saveur d'une sauce, les saveurs d'une sauce, si on peut parler au pluriel des saveurs, ressemblent donc aux différentes intonations d'une musique ou aux différentes couleurs qu'un peintre utilise sur un tableau. Parce que dans la classification française, on a ce qu'on appelle les arts majeurs et les arts mineurs. Or, la cuisine a longtemps été classée dans les arts mineurs, les arts mécaniques, le travail manuel. musique et peinture dans les arts majeurs. Or, pour considérer que la cuisine devienne un art, il fallait la comparer aux autres arts majeurs. Alors, c'est vraiment incroyable la passion qu'il y a à cette époque. On parle d'une alchimie culinaire, on parle du cuisinier qui devient un personnage médiatisé, comme aujourd'hui avec la télévision et les magazines.
Peut-être aussi qu'on maîtrise de mieux en mieux les techniques, notamment la cuisson, la conservation, etc.
Exactement, parce qu'apparaît quelque chose qui va contribuer à moderniser la pratique culinaire, c'est ce qu'on appelle le potager, qui va éloigner le cuisinier de l'âtre de la cheminée. Le potager, c'est une structure maçonnée que l'on installe généralement sous une fenêtre pour avoir la lumière, à hauteur d'homme, avec des petites cavités rondes dans lesquelles on met des braises. C'est l'ancêtre, quelque part, de la gazinière du fourneau, sauf que ça fonctionne avec le charbon. C'est important parce que, dès lors, le cuisinier va avoir au-dessus de lui une diversité de cavités plus ou moins larges, donc de chaleurs différentes, qui vont lui permettre de mieux contrôler la cuisson des sauces. Impossible pratiquement de faire une sauce au beurre dans l'âtre de la cheminée. Faire une sauce au beurre avec, sur un potager, oui, c'est possible. Donc on a à la fois une sophistication de plus en plus importante de la cuisine française et en même temps une technicité de plus en plus poussée. C'est une cuisine de plus en plus rationnelle aussi. Les livres de cuisine nous le montrent très très bien. Le travail dans les cuisines est de plus en plus hiérarchisé. Chacun a son geste à faire.
Avec une brigade.
Avec une brigade de cuisine. La brigade de cuisine, elle est là depuis le Moyen-Âge, bien sûr. Ouais. Mais elle devient de plus en plus précise, de plus en plus rationnelle.
Chacun s'attache.
Chacun s'attache. Et à chacun s'attache sort, bien sûr, ce qu'on va appeler l'œuvre culinaire, qui se retrouve sur la table dans ce fameux service à la française.
La suite de l'histoire.
Il y a un phénomène aussi, quand on parle du XVIIIe siècle, Patrick Rambourg, c'est l'apparition du restaurant. On a des tas d'idées préconçues sur cette question que vous allez vous empresser de démolir.
Oui, tout à fait. Le restaurant, longtemps, on a dit que c'était la Révolution française qui avait créé le restaurant. On nous explique que les grands chefs, les aristocrates se sont retrouvés dans la rue et donc n'ont pas eu d'autre choix que de créer des établissements à l'adresse d'un public élitiste qui n'est plus issu de l'aristocratie mais de la haute bourgeoisie. Alors, c'est totalement faux parce que le restaurant, du moins les établissements, les premiers établissements que l'on appellera restaurant apparaissent dans les années 1760.
À Paris ?
À Paris. C'est une invention parisienne, le restaurant. Alors le restaurant, il apparaît dans un contexte quand même de forte concurrence alimentaire et culinaire dans cette capitale qui est déjà au XVIIIe siècle considérée comme la capitale de la gastronomie. Comme je vous l'ai expliqué déjà, dès le Moyen-Âge, on a des spécialistes du prêt-à-manger dans cette ville, mais pas seulement à Paris, dans toutes les grandes villes a priori, des gens, des professionnels qui font une nourriture prête à être consommée.
C'est spécialiste. Donc pâtissier, boucher, vous le disiez.
Pâtissier, rôtisseur, cuisinier ouailler, charcutier, etc., etc. Traiteurs aussi, les taverniers, les aubergistes, les cabaretiers donnent de la nourriture aussi, comme si on allait dans un restaurant. Cette habitude, elle perdure sur la longue durée. Et au XVIIIe siècle, les Parisiens sont totalement habitués à aller manger à l'extérieur de chez eux et à aller acheter une nourriture prête à consommer. Donc les restaurateurs arrivent dans un environnement déjà où on est habitué à manger hors de chez eux. Soi.
Alors qu'est-ce qui fait la différence ?
La différence, il y a un phénomène de mode, encore une fois, qui s'appuie sur cette notion de nouvelle cuisine. Cette nouvelle cuisine s'appuie sur un discours de santé. On nous dit que la nouvelle cuisine est une cuisine de santé.
Saine.
Saine, qui s'adresse à un public élitiste. Pourquoi une cuisine de santé ? Une cuisine moins grasse, légère. C'est quand même un discours qu'on va retrouver au XXe siècle encore. Qu'est-ce qu'une cuisine légère au XVIIIe siècle ? C'est une cuisine où on utilise moins de matières grasses que celles qui se faisaient, par exemple, à la fin du XVIIe siècle. Et on a des recettes, par exemple, on nous donne deux sauces, sauce à l'italienne, sauce à l'italienne légère. Quelle est la différence ? On diminue la quantité de beurre. Cette cuisine de santé, cette cuisine légère, on va avoir des petits malins qui vont faire un véritable coup de marketing, c'est clairement ça. Ils ont déjà des établissements qu'on appelle des traiteurs, qui proposaient une cuisine sous forme de traiteur, c'est-à-dire qu'on pouvait manger sur place ou qu'on portait à la maison. Et ils vont reprendre un mot qui existe depuis très longtemps, le mot restaurant, qui veut dire bouillon de santé, qui existe depuis le Moyen-Âge, ce mot, restaurant, restaurare en latin, restaurer le corps humain, c'est-à-dire qu'on donnait un restaurant à quelqu'un qui était malade. C'était un bouillon de viande, généralement.
Un remontant, en quelque sorte.
On peut dire ça comme ça. Ils vont ouvrir des établissements qu'ils vont nommer restaurants parce qu'ils s'adressent à un public qui recherche une cuisine de santé. C'est ça les premiers restaurants à l'origine, dès les années 1760, avec un cadre extrêmement sophistiqué, comme les cafés qui apparaissent au XVIIe siècle, comme le Procope, des petites tables individuelles, un service sophistiqué, une vaisselle de porcelaine précieuse, avec l'eau de la Fontaine du Roi, des vins fabuleux qui viennent de Beaune, qui viennent de Bordeaux, etc. Et de la poularde cuite au bouillon, du riz avec la sauce blanche. Bref, une cuisine censée apporter santé, confort au public qui était présent, mais aussi un confort intellectuel, puisqu'on leur proposait aussi de lire des journaux, etc., etc. On proposait aussi des pâtisseries comme le gâteau de Savoie, le gâteau de la Reine. C'était un must de goûter le gâteau de Savoie et le gâteau de la Reine à l'époque. Donc, on a vraiment un environnement extrêmement élitiste qui s'adresse à un public très prisé.
Alors, à ce que je vois, monsieur était un habitué de la maison ?
Un habitué, ça vous pouvez le dire. C'est qu'on mangeait bien ici. Le patron, c'était un chef.
Un chef ? Si on veut.
Comment si on veut? Et sa cuisine? Vous avez goûté sa cuisine? Son bœuf en daube, son stock-office, ses pieds paquets maison?
Ses pieds paquets.
Ça vous plaît pas les pieds paquets?
Ah, non, je dis pas ça, mais enfin...
Et sa bouillabaisse? Vous savez ce que c'était, sa bouillabaisse?
C'était des boîtes. C'était des boîtes.
Des boîtes? Sa bouillabaisse? Vous voulez peut-être dire de la conserve? Attention, monsieur. À ce que vous dites, vous l'insultez.
Suite de l'histoire.
Ça, c'est les années 1760. Diderot, par exemple, nous écrit dans certaines de ses lettres qu'il a été mangé chez le restaurateur. Il explique qu'on y est très bien traité, mais fort chèrement traité. Voilà les premiers restaurants. Et très très vite, ces restaurants vont avoir un succès phénoménal. Tout le monde va en parler.
Le phénomène s'installe.
Le phénomène s'installe. Et ce restaurant arrive aussi à un moment donné où les corporations se disloquent. Parce que pendant très très longtemps, les métiers se sont appuyés sur des corps où on expliquait que voilà, moi je suis cuisinier, donc je fais les pièces rôties. Moi je suis charcutier, donc je m'occupe des viandes de porc, etc., etc. Mais le restaurant, il propose une cuisine qui peut aussi bien proposer des viandes rôties, des viandes en ragoût, du poisson, etc. Donc le restaurant devient un établissement qui se positionne au-dessus de tous les corps de métier.
À Paris, il y en a beaucoup donc à ce moment-là ?
Ça va être très rapide. Jusqu'à la Révolution française, on a des grands restaurants qui s'ouvrent et un lieu mythique à Paris qui est le Palais Royal. Le Palais Royal devient le centre gastronomique de la capitale française avec des grands établissements qui s'installent comme le restaurant de Beauvilliers, le restaurant des Trois Frères Provençaux, le Café de Chartres aussi qui va devenir le Grand Véfour plus tard. Et la particularité du restaurant, c'est qu'il propose une carte avec des plats, des boissons avec un prix de chaque côté et le convive choisit et organise son menu. Alors la nouveauté aussi, c'est le cadre de beaux établissements. On peut voir ça encore aujourd'hui avec le Grand Véfour, des restaurants du XVIIIe siècle qu'on a encore aujourd'hui à Paris. Et très très vite, le restaurant va se diffuser dans toute la société. C'est-à-dire que progressivement, on va avoir le restaurant gastronomique, le restaurant qui va s'adresser à la bourgeoisie, le restaurant qui va s'adresser à une population plus modeste. Et c'est surtout au XIXe siècle
que ça explose.
Et on va avoir des restaurants à prix fixe qui vont apparaître et des restaurants à la carte. Alors la différence, c'est que le restaurant à prix fixe s'adresse à une population généralement plus modeste où on propose un menu complet à un prix défini à l'avance avec généralement une entrée, un plat et un dessert.
Patrick Rambourg, est-ce que l'évolution de la manière dont on met la table, dont on se tient à table, est importante à souligner au XIXe et XXe siècle.
Oui, parce que pendant des siècles, on ne parlera que du service à la française, bon, pour les grandes tables, bien sûr. Alors déjà, avec le succès du restaurant, le service à la française n'était plus vraiment utilisé, puisque le convive choisit son repas au moment où il arrive, au dernier moment. Donc là, on voit que quelque chose est en train de se mettre en place, que l'on va appeler service à la russe. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une origine russe. Le service à la russe, c'est un service où l'on sert les plats les uns après les autres, et non plus un ensemble de plats que l'on pose en même temps sur la table. C'est une révolution et qui va faire débat dans la première partie du 19e siècle. Parce que les cuisiniers s'étaient habitués à considérer que la cuisine française est une cuisine artistique parce que l'œuvre culinaire est visuelle. Elle est sur la table. Or, le service à la russe vide la table. Donc ça va leur poser un problème. Si on change de service comme ça,
plus d'harmonie entre les plats, entre les couleurs, entre les formes.
Exactement. Et la cuisine française ne sera plus considérée comme un art. Donc, pendant quelques temps, on va avoir trois services selon le beau vouloir du convive ou du cuisinier. Service à la russe, service à la française et service mixte où on utilisera à la fois à la française et à la russe. Ça veut dire que d'une façon générale, les plats froids seront présentés sur la table, mais les plats chauds seront servis les uns après les autres, prédécoupés. On servira directement dans l'assiette du convive. C'est grâce au service à la russe que le verre apparaît sur la table, désormais, puisqu'on a la place, et pas qu'un seul verre. On voit apparaître plusieurs verres qui vont correspondre donc au vin que l'on va consommer, le verre à vin blanc, le verre à vin rouge, le verre à Bourgogne, le verre à Bordeaux, la coupe de champagne, etc. C'est à cette époque aussi qu'apparaît cette vaisselle bourgeoise que l'on retrouve dans les placards de nos grands-mères.
Porcelaine,
cette diversité d'assiettes que l'on va superposer, cette diversité de fourchettes, couteaux. Donc on voit une vaisselle de table nouvelle qui apparaît à ce moment-là.
À quel moment la salle à manger est devenue aussi un lieu répandu ?
Alors, elle s'affirme au XVIIIe siècle dans les grandes demeures, hein, les hôtels particuliers parisiens ou dans les hôtels particuliers des grandes villes de France et de Navarre. Et puis progressivement, ça se divise dans le reste de la société. Mais encore au XIXe siècle, tout le monde n'avait pas une salle à manger à la maison. Hein. Avoir une salle à manger à la maison comme avoir une cuisine à la maison, c'est quand même très récent. Il faudra attendre au moins le XXe siècle. Pendant très très longtemps, dans certaines demeures à la campagne, on a encore une pièce principale pour tout.
Il y a un phénomène important que vous voulez souligner, Patrick Rambourg, c'est celui des spécialités régionales. Est-ce que ça, c'est propre à la France ?
Alors, je ne sais pas si on peut dire que c'est propre à la France, mais ces cuisines régionales vont jouer un rôle très très important dans l'évolution de la cuisine en France. Pendant très longtemps, quand on parle de la grande cuisine française, c'est avant tout la grande cuisine parisienne. Pendant très très longtemps, on considérait que la cuisine régionale ou les plats locaux ne représentaient pas la grande cuisine française. Cela va changer avec le 19e siècle. D'abord, au 19e siècle, apparaissent les premiers livres de cuisine régionale en Alsace, en Provence. Ce n'est pas anodin, ce sont des régions à forte identité. Ces livres de cuisine apparaissent à un moment où les régions veulent montrer leur identité.
Donc il y a une arrière-pensée politique derrière ?
Oui, la cuisine régionale se met en place contre le centralisme parisien, on peut dire ça comme ça. Et dès lors que apparaissent ces premiers livres de cuisine régionale au début du 19e siècle, toutes les régions de France vont vouloir leurs livres de cuisine, dans le Bordelais, en Gascogne, dans le Poitou, etc. Donc c'est mettre en avant une identité régionale pour valoriser des pratiques culinaires. On pensait que progressivement elles allaient disparaître.
Mais des pratiques réelles ?
Pratiques réelles et des recettes qui ont été plus ou moins inventées, qui sont devenues des traditions régionales aujourd'hui. Alors, pour vous montrer la tension qu'il pouvait y avoir avec la cuisine régionale, je vous donnerai l'exemple du cassoulet, par exemple. Le cassoulet, donc trois villes se disputent la paternité du cassoulet, Toulouse, Castelnaudary et Carcassonne. Mais ça montre qu'on prend conscience d'une cuisine régionale.
Et de la richesse et de la diversité aussi de la cuisine.
Oui, exactement, de la richesse et de la diversité de la cuisine française.
La suite de l'histoire, Véronique Alzieux.
Cette richesse-là, elle est quand même aussi à chercher certainement du côté de la diversité des produits qui sont cultivés en France.
Oui, mais c'est pas suffisant parce que il faut une reconnaissance extérieure pour considérer qu'une cuisine est spécifique à une région ou à une ville ou à une province. Et surtout, il faut que ça soit codifié. Codifier des recettes dans un livre de cuisine, ça fige une recette, c'est vrai. La recette nous présente un texte écrit de pratique qui se faisait à telle époque. Or, la cuisine est en constante évolution. La blanquette de veau, qui se faisait encore au début du XXe siècle, et celle que l'on fait aujourd'hui, elle a changé. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, une blanquette de veau faite dans un restaurant, elle n'est plus liée avec du roux, on y met moins de crème fraîche, et parfois on n'y met pas le jaune d'œuf. Alors que la recette de ma grand-mère, il y avait le roux, la crème en grande quantité, et les jaunes de trois liaisons pour une même recette. Donc on a une tradition qui s'adapte à la modernité de la société, parce qu'aujourd'hui, on aime toujours bien manger comme nos ancêtres, mais on a aussi tout ce discours diététique, bien manger, c'est aussi manger sainement.
Patrick Rombourg, est-ce que la codification dont vous parlez permet aussi l'apparition des critiques gastronomiques ?
Oui. Les critiques gastronomiques, ils apparaissent vraiment officiellement dans le courant du XIXe siècle. Et on a deux pères fondateurs du discours gastronomique ou du discours critique moderne. Grimaud de la Reynière, qui est né à la fin du XVIIIe siècle et qui va être célèbre à son époque avec l'Almanach des gourmands. Et puis on a un autre personnage, c'est Brillat Savarin, avec La physiologie du goût, 1826. Énorme succès qui donne les aphorismes « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », par exemple. Alors, la gastronomie devient une science. Depuis le bébé jusqu'au mourant qui appelle son dernier bouillon.
Patrick Rombourg, on va terminer ces entretiens en parlant de la cuisine telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, la cuisine nouvelle, la nouvelle cuisine, je ne sais pas, il y a eu aussi le phénomène de la nouvelle vague au cinéma, c'est un peu du même ordre ?
C'est un peu du même ordre. Dans les années 70-80, on a un véritable phénomène qui apparaît que l'on va nommer la nouvelle cuisine. Alors, l'historien sait que les termes sont déjà utilisés au XVIIIe siècle. Alors, c'est un phénomène de médiatisation extrêmement important. On est dans la période des Trente Glorieuses encore. Et les quadragénaires des années 70 ne trouvaient plus dans les restaurants une cuisine en accord avec leur mode de vie moderne. Ils trouvaient une cuisine un peu trop lourde, un peu trop sophistiquée, dite cuisine d'Escoffier. Escoffier, Auguste Escoffier, grand chef du tournant du XIXe siècle et du XXe siècle, avait modernisé la cuisine à cette époque et avait publié un livre qui s'appelle « Le guide culinaire ». Or, le guide culinaire est devenu une telle bible dans le monde des cuisiniers que nombre de cuisiniers se sont trouvés enfermés dans cette bible culinaire.
Ça a figé les choses.
Ça a figé
les
choses.
Et donc, à un moment donné, on a eu envie d'en sortir.
Exactement. Avec les années 70, une nouvelle génération de cuisiniers apparaît. C'est Michel Gérard, Bocuse, c'est Robuchon et bien d'autres personnages et grands chefs qui sont les grands noms de la cuisine française encore aujourd'hui. Et l'arrivée de deux journalistes qui vont jouer un rôle important dans la médiatisation de la cuisine, c'est Gault et Millau, qui vont créer un guide. On est à un moment donné où on a d'un côté des jeunes chefs qui proposent une cuisine différente, allégée, où là aussi on parle d'une vraie cuisine, du vrai goût des aliments, le discours qu'on a déjà vu au XVIIe siècle quelque part. Et puis d'un autre côté, on a des journalistes qui cherchent cette nouvelle cuisine et qui vont la trouver auprès de ces jeunes chefs. Et d'un autre côté, on a un public qui demande une nouvelle cuisine. Et donc, on a les
trois... Tous les ingrédients, ils sont donc.
Tous les ingrédients sont là pour le succès de cette fameuse nouvelle cuisine. Succès français et succès international.
Je suis arrivé dans une station thermale. On venait déjà à l'époque pour maigrir. Et j'ai imaginé...
Michel Guérard, chef cuisinier.
Une cuisine qui ne... de régime, mais qui serait le contraire d'une punition. C'est-à-dire une cuisine de plaisir. Le plaisir étant... en soi une forme de thérapie. Donc ce livre qui est sorti en 1976 est le fondement même, si vous voulez, d'une nouvelle cuisine de santé qui tient toujours très bien la route.
La suite de l'histoire.
Cette nouvelle cuisine est le dernier grand fait historique dans le contexte hégémonique de la cuisine française jusqu'aux années 90 du XXe siècle.
Qui est en train de disparaître là ?
Alors, on ne peut plus dire aujourd'hui que la cuisine française est une cuisine hégémonique. Elle est toujours un modèle dans le monde entier. Mais la cuisine est devenue un phénomène international. Ça ne veut pas dire pour autant que le modèle français n'existe plus. Il est toujours là et c'est toujours un modèle. Mais cette nouvelle cuisine va montrer comment la cuisine française, dans l'histoire, a toujours été capable de se remettre en cause, de s'ouvrir aux influences extérieures, de rebondir lorsqu'elle était critiquée. Et là, à cette époque, l'influence extérieure est l'influence japonaise. C'est à ce moment-là que se mettent en place les poissons moins cuits, la viande beaucoup moins cuite aussi, les légumes croquants. C'est-à-dire que c'est un phénomène de la grande cuisine française qui s'est très rapidement diffusée dans toutes les familles. Il y a toujours eu des connexions entre la grande cuisine qui se faisait chez les élites et le reste de la société, par l'intermédiaire de la classe moyenne qu'on appelle la bourgeoisie. C'est-à-dire que progressivement, la cuisine aristocratique ou les manières de manger aristocratiques se diffusaient dans le reste de la société, tout en étant simplifiées, bien sûr. Et on a des textes au XVIIIe siècle, notamment avec ces livres qui apparaissent sur la cuisine bourgeoise, où on nous explique que le modèle de la cuisine bourgeoise se construit par rapport au modèle aristocratique, mais beaucoup plus simplifié. Et progressivement, comme ça, ça se diffuse dans la société. C'est quand même incroyable que, par exemple, ce brochet au beurre blanc que l'on trouve dans les traités élitistes du XVIIe siècle se retrouve dans les familles françaises au XXe siècle. Et cette nouvelle cuisine, aujourd'hui encore, on y vit dessus. On cuit moins le poisson, on cuit moins la viande, on cuit moins les légumes. Et surtout, c'est la déculpabilisation de la gourmandise et du plaisir de manger. C'est ça qu'a apporté la nouvelle cuisine aussi. Longtemps, aimer manger, c'était pas toujours perçu comme quelque chose de très positif.
D'ailleurs, la gourmandise étant un des sept péchés capitaux.
Exactement. Aujourd'hui, bien manger, c'est aussi une forme d'hédonie, c'est aussi une forme de culture, c'est aussi montrer sa manière d'apprécier la vie et aussi montrer sa façon d'apprécier la vie française.
Un très grand merci, Patrick Rambourg, d'être venu nous parler de cette histoire de la cuisine et de la gastronomie française. Je rappelle que vous consacrez un livre à cette question paru aux éditions Perrin dans la collection Timpus. Et je rappelle que vous êtes historien des pratiques culinaires et alimentaires et que vous enseignez à l'université Paris 7. Merci encore.
Merci.